presque un sport national. C'est un sport qui surgit de la matière même d'une nation, c'est-à-dire de son sol et de son climat. Jouer au hockey, c'est chaque fois redire que les hommes ont transformé l'hiver immobile, la terre durcie, la vie suspendue, et que précisément de tout cela, ils ont fait un sport allègre, vigoureux, passionné. Les enfants ont l'air de se battre, ils ne font qu'apprendre à habiter leur pays. Et ce que l'œil des mères suit dans les premiers gestes adultes de leur progéniture, c'est moins le sort d'une bataille que le développement d'une initiation.
Et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous en direct de votre émission de lecture à voix haute, Les yeux ont des oreilles. Un numéro spécial pour cette journée de la radio, puisque nous vous proposons l'incroyable affiche de la confrontation du sport en littérature. L'arène du jour est bien entendu le théâtre Cantor. Il est 9h02, tout le monde commence à être bien échauffé. Je salue donc Maë, Sarah et Zoé pour vous faire découvrir différentes facettes du sport en littérature. Voici le programme que nous vous proposons aujourd'hui. Prendre part à une partie de football improvisé, gravir des montagnes, en passant par les performances physiques artistiques, pour finir par des Jeux olympiques pour le moins effrayants. Mais commençons tout de suite en déléguant la parole à Goscinny, sans MP, une fois n'est pas coutume, ou plutôt au commentateur que Nicolas imagine dans sa tête pour décrire ses exploits d'athlète. Alors le sport pour Nicolas, c'est avant tout jouer avec ses copains, et pas n'importe quoi. Au football, mais pas n'importe où, dans le terrain vague et ses mille merveilles abandonnées, où on trouve de tout, sauf un ballon de foot, manque de peau, un terrain exceptionnel pour disputer un match de haute voltige. Oui, mais contre qui ? Contre ceux de l'autre école, les ennemis jurés de Nicolas et ses acolytes. Après une dispute et un échange de claques avec ceux de l'autre école, Nicolas et ses copains sont bien décidés à lancer le match. Une partie féroce est sur le point de se dérouler, dont voici la première mi-temps.
Hier après-midi, sur le terrain du terrain vague, s'est déroulé un match de football associatif entre une équipe d'une autre école et une équipe entraînée par le père de Nicolas. Voici quelle était la composition de cette dernière. Gaul, Alceste. Arrière, Eudes et Clotaire. Demi, Joachim, Rufus, Agnan. Interdroit, Nicolas. Avant-centre, Geoffroy. Ailier gauche, Mexan. L'arbitre était le père de Nicolas. Ainsi que vous l'avez lu, il n'y avait pas d'ailier droit ni d'inter gauche. Le manque d'effectifs avait obligé le père de Nicolas à adopter une tactique mise au point à l'ultime séance d'entraînement qui consistait à jouer par contre-attaque. Nicolas, dont le tempérament offensif est comparable à celui d'un Fontaine, et Mexan, dont la vitesse et le sens tactique rappellent Piantoni, devait servir Geoffroy, dont les qualités ne rappellent personne, mais qui a l'avantage de posséder un équipement complet, ce qui est appréciable pour un avant-centre. Le match débutait à 15h40 environ. À la première minute, à la suite d'un cafouillage devant les buts, l'ailier gauche décocha un tir d'une telle puissance qu'Alceste fut dans l'obligation d'effectuer un plongeon désespéré pour éviter le ballon qui arrivait droit sur lui. Mais le but fut refusé, l'arbitre se rappelant que les capitaines ne s'étaient pas serré la main. À la cinquième minute, alors que le jeu se déroulait au milieu du terrain, un chien dévora le casse-croûte d'Alceste, qui était pourtant enveloppé de 3 feuilles de papier et par 3 ficelles, pas Alceste le goûter. Cela porta un rude coup au moral du gardien de but, et chacun sait combien le moral est important pour un Gaul qui encaissa un premier but à la 7e minute. Et un deuxième à la 8e. À la 9e minute, Eudes, le capitaine, conseilla à Alceste de jouer ailier gauche, Mexan le remplaçant dans les buts. Ce qui, à notre avis, est une erreur. Alceste est plutôt un demi-offensif qu'un attaquant de tempérament. À la 14e minute, une averse telle tomba sur le terrain que la plupart des joueurs coururent se mettre à l'abri. Nicolas restant sur le terrain contre un joueur adverse. Rien ne fut marqué durant cette période. À la 20e minute, Geoffroy, en position de demi-droit ou d'inter-gauche, peu importe, dégagea son camp d'un shoot terrible. À la même 20e minute, Monsieur Chapeau allait rendre visite à sa mère Grand, qui était grippée. Le choc le déséquilibra, et il pénétra chez les chats de faux, brouillés avec lui depuis 20 ans. Il réapparut sur le terrain grâce à un chemin connu de lui seul, probablement, et s'empara du ballon juste comme la remise en jeu allait avoir lieu. Après 5 minutes de perplexité, ce qui nous amène à la 25e minute, le match repart, une boîte de conserve remplaçant le ballon. Au 26e, 27e, 28e minute, Alceste, grâce à ses dribbles, marqua 3 buts. il est pratiquement impossible de prendre une boîte de conserve de petits pois extra fins, même vide, à Alceste. L'équipe de Nicolas menait par 3-2. À la 30e minute, M. Chapeau rapporta le ballon. Sa grand-mère allait mieux et il était d'excellente humeur. Comme la boîte de conserve était inutile, on la jeta. À la 31e minute, Nicolas déborda la défense adverse, centra sur refus en position d'intergauche. Mais comme il n'y avait pas d'intergauche, il était en position d'avant-centre. Rufus passa à Clotaire qui, par un shoot du gauche, prit tout le monde à contre-pied et l'arbitre au creux de l'estomac. Celui-ci, d'une voix sourde, expliqua aux deux capitaines que le temps se couvrant, qu'une averse menaçant et que le fond de l'air étant un peu frais, il vaudrait mieux jouer la deuxième mi-temps la semaine prochaine. Il est des écrivains voyageurs, nomades, aventuriers. Ils peuvent passer des heures à écrire, penchés sur une table de travail, à lire, installés dans un fauteuil, et en parallèle escalader des cathédrales, gravir des montagnes, braver un vent glacial en marchant des kilomètres sur la glace du Baïkal. Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson écrit ses lectures comme ses longues marches, ses méditations comme l'ascension des paysages. Pour le corps comme pour l'esprit, la solitude sibérienne n'est pas de tout repos.
Je me souviens de mes voyages à pied dans l'Himalaya, à cheval dans les monts célestes, à vélo il y a 3 ans dans le désert d'Oudstour. Cette joie, alors, a triomphé d'un col. La rage carnassière à abattre les kilomètres, l'envie de mourir d'avancer. Parfois, j'allais tel un possédé, marchant jusqu'au délire, à l'épuisement. Dans le Gobi, je m'arrêtais pour passer la nuit là, m'écroulant sous moi, à l'endroit de mon dernier pas, et repartais le lendemain, sitôt l'œil ouvert, machinalement. Je jouais au loup. À présent, je fais l'ours. Je veux m'enraciner, devenir la terre après avoir été du vent. J'étais enchaînée à l'obsession du mouvement, droguée d'espace. Je courais après le temps. Je croyais qu'il se cachait au fond des horizons. Par la vigueur de l'usage, compensait la hâtiveté de son écoulement. Voilà comment je m'accommodais de sa fuite. L'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puissant. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Elles coulent de la plaie du temps blessé. Dans la cabane, le temps se calme. Il se couche à vos pieds en vieux chien gentil. Et soudain, on ne sait même plus qu'il est là. Je suis libre parce que mes jours le sont. Chaque après-midi, je chausse mes raquettes. 1h30 de marche dans la forêt pour atteindre la lisière supérieure des arbres. J'aime entrer dans le bois. Derrière l'orée, les sons s'atténuent. Lorsque je pénètre sous la voûte d'une cathédrale gothique en France ou en Belgique, j'éprouve le même engourdissement. Une douceur dans l'être qui alourdit les paupières et diffuse sa tiédeur derrière l'os frontal. Quelque chose réagit en moi au rayonnement de la pierre calcaire comme au rayonnement des résineux. À présent, je préfère les futaies aux nefs de pierre. Sous les arbres, neige profonde. Le vent ne la balaye jamais. Malgré les raquettes, je m'enfonce. Les lynx, les loups, les renards et les visons circulent dans la nuit. La tragédie sauvage se lit dans les empreintes. Certaines sont perlées de sang. Elles sont les paroles de la forêt. Les bêtes ne s'enfoncent pas. La surface de leurs pieds est proportionnée à leur poids. L'homme est trop lourd pour aller sur la neige. Parfois, le cri des geais est sinon le silence. Il le lance du sommet d'un sapin, sentinelle de plumes sur une tour d'aiguille. Il crie parce que je pénètre chez eux. Personne ne demande jamais aux bêtes la permission de traverser leur domaine. Le lichen pend aux arbres. J'ai lu un conte il y a longtemps où l'auteur imaginait un dieu errant dans les sous-bois, son manteau s'accrochait aux branches des arbres et les lambeaux devenaient le lichen. La tristesse des pins, ils ont l'air d'avoir froid. Après 1 heure de montée, l'altimètre marque 750 mètres. Encore un effort et au-delà de 900 mètres d'altitude, la forêt baissera les armes. Là-haut, la neige rabotée par les tempêtes offre une surface dure. Les raquettes accrochent bien, je m'élève vite et choisis de remonter l'une des vallées étroites. Quelques mélèzes subsistent au-delà de la frontière forestière. Ils poussent isolés et leurs branches contournées se détachent sur le fond lapis du lac, étoilé de fractures. L'or des branches, le bleu du lac, le blanc des fractures de glace, palette d'Okusai. Parfois le sol se dérobe. La neige accumulée sur un bosquet de pins nains s'effondre sous mon poids. Je tombe dans une nasse de branches, les raquettes se coincent sous l'entrelacs. j'éructe au fond du trou. Dans les récits de Kolyma, Varlam Chalamov, détenu dans un goulag de Sibérie, se souvient des pins nains qui entouraient le camp. Lorsque la température se réchauffait en mai, les arbres se libéraient de la couche de neige. Ils se redressaient, ils annonçaient le printemps, l'espoir. À l'altitude de 1000 mètres, je grimpe vers les arêtes rocheuses qui flanquent les Talvegs. La denture des dorsales granitiques se découpe sur le lac. Certains de mes amis vivent pour cela seuls, gagner les altitudes où l'air pique le nez, vivre suspendu entre le ciel et la terre dans un royaume de formes abstraites, sans odeur. Lorsqu'ils redescendent dans les vallées, la vie semble puer. En ville, les alpinistes sont des gens malheureux. Entre les blocs de pierre qui émergent de la neige, je construis un feu, y fais bouillir le thé. Le feu et moi fumons, côte à côte. Nous offrons nos volutes au vieux lac. Au cours de ces journées là-haut, je me consacre à la pure réjouissance d'être. Tirer sur son clope, seul, devant le lac, ne nuire à rien, ne subir le dictat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve et savoir que la nature ne nous rejette pas. Dans la vie, il faut 3 ingrédients. Du soleil, un belvédère, et dans les jambes, le souvenir lactique de l'effort. Et aussi des petits Monte Cristo. Le bonheur est fugace comme une bouffée de cigare. Il fait moins 30 degrés Celsius, trop froid pour la contemplation. Je choisis un couloir pour redescendre en glissant. Je m'accroche aux baliveaux de frêne et aux branches de cornouiller. Je retrouve la forêt de pins et de bouleaux, m'enfonce dans la neige endormie et regagne la rive en 1 heure. Commence dans une cour prospère aux allures de renaissance italienne. Dans l'ombre du prince admiré de tous, un nain. Ce roman de Per Lagerkvist reçut le prix Nobel de littérature en 1951. Le nain, c'est une cruelle chronique de cour écrite par un être implacable qui épie, torture, tue. Inquiétant ce petit bonhomme dont les méfaits assombriront à jamais le bonheur de cette cour. Pourtant est-il le seul monstre dans l'histoire ? Son ton acerbe et sarcastique atteint même le sport lors d'un festin d'alliance et de paix. Il apparaît ici sous la forme de danse et de mime, d'acrobatie et d'escrime. Oui, mais derrière les masques des acteurs se profile une menace. Est-ce un vrai festin de paix ?
On éteignit alors presque toutes les lumières de la salle, tandis que résonnait une musique excitante, dont on ignorait la source. et dans l'obscurité, 12 danseurs mauresques, des torches allumées entre les dents, entrèrent en courant et se mirent à exécuter une danse effrénée, dont le spectacle vous coupait le souffle. Tantôt ils tourbillonnaient avec un cercle de feu autour de leur tête noire, tantôt ils brandissaient leurs torches, ou les lançaient en l'air, puis les rattrapaient entre leurs dents étincelantes d'animaux sauvages. Ils jouaient avec le feu, comme avec quelque chose de dangereux, et tous les spectateurs les contemplaient fixement, mi-fascinés, mi-effrayés par leur aspect étrange et méchant. Ils se pressaient autour de l'endroit où étaient assis les princes. Lorsqu'ils brandissaient leurs torches, des étincelles pleuvaient sur la table. Tandis qu'ils mordaient les torches, leurs visages se tordaient en cruelles grimaces qui leur donnaient l'aspect d'esprits du monde souterrain d'où on pouvait supposer qu'ils avaient apporté leur feu. Et pourquoi ne l'auraient-ils pas allumé là? Pourquoi n'auraient-ils pas trempé leurs torches dans les flammes infernales? Mon vieux visage de nain caché dans l'obscurité, je regardais ces esprits et leurs danses étranges, inquiétantes, que semblait leur avoir enseigné le diable en personne. À la fin, sans doute pour indiquer leur origine et pour rappeler le royaume de la mort, où tous les hommes iront un jour, ils renversèrent leurs torches et les éteignirent sur le parquet. Puis ils disparurent, comme si la terre les avait engloutis soudain. À peine la salle était-elle allumée de nouveau que le maréchal de la cour réapparut au seuil de la porte sur sa jument blanche et, accompagné des sons aigus d'une fanfare, annonça le grand événement de la soirée. Le mets le plus raffiné, le plus merveilleux. Pavoni ! Sur quoi 50 serviteurs accoururent vivement de tous les côtés, portant au-dessus de leur tête d'énormes plats d'argent incrustés de pierres précieuses et sur lesquels étaient dressés autant de pans recouverts de brillantes dorures et leurs queues irisées déployées en éventail. Tout le monde manifesta le plus stupide ravissement à ce spectacle. La dépression causée par le renversement des torches, présage de mort, disparut aussitôt. Ces êtres sont comme des enfants. Ils oublient un jeu pour un autre. Il n'y a que le jeu que je vais jouer avec eux qu'ils n'oublieront jamais. Le maître des cérémonies fit alors son entrée et réclama le silence. Il annonça la représentation d'une allégorie de toute beauté, composée à la gracieuse demande du prince par les poètes de la cour pour le divertissement et l'édification des très honorés invités. Les écrivailleurs jaunes et maigres assis aux modestes tables du fond de la salle dressèrent alors l'oreille et prirent un air plus idiot que jamais pour assister à la représentation de leur œuvre de génie, dont le contenu profond et symbolique devait constituer le point culminant de la fête. Sur une estrade placée contre le mur principal apparut le dieu Mars en brillante armure. Il annonça qu'il avait décidé de forcer les deux puissants lutteurs Kéléphon et Calixtès à un combat qui couvrirait leur nom d'une gloire éternelle et, par-dessus tout, ferait ressortir sa propre grandeur et son pouvoir, en montrant comment, sur l'ordre du dieu de la guerre, de nobles hommes s'affrontaient en une lutte héroïque et répandaient leur sang. Tant qu'il resterait du courage et de la chevalerie sur terre, ses vertus seraient au service de Mars et d'aucun autre, conclut le personnage avant de quitter la scène. Les deux champions firent alors leur entrée et s'élancèrent l'un contre l'autre dès qu'ils se furent aperçus. Leurs épées lançaient des éclairs et le long combat d'escrime qui suivit excita l'admiration de tous les connaisseurs. Je dois avouer moi-même qu'ils étaient maîtres en leur art et que je pris grand plaisir à cette partie du spectacle. Pendant la lutte, ils feignirent de se porter des coups terribles, puis ils s'affaissèrent, comme épuisés par leurs prétendues blessures, et restèrent complètement inertes sur le parquet. Le dieu de la guerre réapparut, il parla en termes solennels de leur lutte glorieuse qui les avait conduits tous deux à une mort héroïque, de son invincible pouvoir sur l'esprit des hommes et de lui-même, le plus puissant des dieux de l'Olympe. Lorsqu'il eut disparu, une douce et calme musique se fit entendre et quelques instants après, la déesse Vénus entra d'un pas léger, suivie de ses demoiselles d'honneur. Elle vit les deux lutteurs gisant par terre, cruellement blessés, et comme elle dit, baignant dans leur sang. Puis elle fit quelques pas en avant et alla toucher de sa baguette magique les champions abattus, qui se relevèrent aussitôt sains et saufs et se tendirent la main en signe de paix et d'amitié éternelle, jurant qu'ils ne se laisseraient plus jamais séduire par le terrible dieu Mars. Si mon visage avait été capable de sourire, j'aurais certainement souri pendant cet ingénieux épilogue. Mais ces épanchements sentimentaux éveillèrent un écho chez la plupart des spectateurs, qui furent saisis d'émotion, enthousiasmés. Les écrivains qui avaient obtenu ce résultat parurent enchantés, s'attribuant tout l'honneur du succès, bien que personne ne leur accordât la moindre pensée. Ils considéraient sûrement cette allégorie pleine d'allusions et de phrases belles et sublimes comme le seul événement important des solennités destiné à célébrer le traité de paix éternelle entre notre maison princière et celle de Montanza. Moi, je me demande si le plus important n'était pas ce qui allait suivre.
I paid my dues. time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share.
Voici à présent un extrait de W ou le souvenir d'enfance, signé Georges Perec, qui croise de manière incroyable deux récits, l'un autobiographique, l'autre fictif. Le texte que vous allez entendre, issu de la partie fictive, nous dresse le portrait de W, lieu imaginaire où le sport règne en maître. Cependant, l'impression d'une société idéalisée laisse peu à peu place au portrait d'un monde au fonctionnement effrayant, où le sport est instrumentalisé à des fins totalitaires, au service de la peur et d'une concurrence sans pitié entre les concurrents pour parvenir à survivre.
Les lois du sport sont des lois dures, et la vie W les aggrave encore. Aux privilèges accordés dans tous les domaines aux vainqueurs s'opposent, presque avec excès, les vexations, les humiliations, les brimades imposées aux vaincus. Elles vont parfois jusqu'aux sévices, telle cette coutume en principe interdite mais sur laquelle l'administration ferme les yeux, car le public des stades y est très attaché, qui consiste à faire accomplir au dernier d'une série un tour de piste au pas de course avec des chaussures mises à l'envers. Exercice qui semble bénin au premier abord, mais qui est en fait extrêmement douloureux et dont les conséquences, meurtrissures des orteils, ampoules, exulcération du coup de pied, du talon, de la plante, interdisent pratiquement à sa victime d'espérer obtenir un classement honorable dans les compétitions des jours suivants. Plus les vainqueurs sont fêtés, plus les vaincus sont punis. Comme si le bonheur des uns était l'exact envers du malheur des autres. Dans les courses de routine, championnats de classement, championnats locaux, les fêtes sont maigres et les châtiments presque inoffensifs. Quelques lazzis, quelques huées, quelques brimades sans importance, à la limite des gages imposés aux perdants dans les jeux de société. Mais plus les compétitions deviennent importantes, plus l'enjeu prend de poids, pour les uns comme pour les autres. Le triomphe réservé au vainqueur d'une Olympiade, et plus particulièrement à celui qui aura gagné la course des courses, c'est-à-dire le 100 mètres, aura peut-être comme conséquence la mort de celui qui sera arrivé le dernier. C'est une conséquence à la fois imprévisible et inéluctable. Si les dieux sont pour lui, si nul dans le stade ne tend vers lui son poing au pouce baissé, il aura sans doute la vie sauve, et subira seulement les châtiments réservés aux autres vaincus. Comme eux, il devra se mettre nu et courir entre deux haies de juges armés de verges et de cravaches. Comme eux, il sera exposé au pilori, puis promené dans les villages, un lourd carcan de bois clouté au cou. Mais si un seul spectateur se lève et le désigne, appelant sur lui la punition réservée aux lâches, alors il sera mis à mort. La foule tout entière le lapidera et son cadavre dépecé sera exposé pendant 3 jours dans les villages, accroché aux crocs de bouchers qui pendent aux portiques principaux. Sous les 5 anneaux entrelacés, sous la fière devise de W, Fortius, Altius, Kitius, avant d'être jetés aux chiens. De telles morts sont rares. Leur multiplication en rendrait l'effet presque nul. Elles sont traditionnelles pour le 100 mètres des Olympiades. Exceptionnelles pour toutes les autres compétitions et pour toutes les autres disciplines. Il peut arriver, certes, que le public des stades ayant mis tous ses espoirs dans un athlète soit particulièrement déçu par la médiocrité de sa performance et en vienne à l'assaillir, généralement le bombardant à coups de cailloux, de projectiles divers, fragments de mâche-fer, débris d'acier, culs de bouteille, dont certains peuvent se révéler particulièrement dangereux. Mais la plupart du temps, les organisateurs s'opposent à de telles voies de fait et interviennent pour protéger la vie des athlètes menacés. Mais l'inégalité des traitements réservés aux vainqueurs et aux vaincus n'est pas, loin de là, le seul exemple d'une injustice systématique dans la vie W. Ce qui fait toute l'originalité de W, ce qui donne aux compétitions ce piment unique qui fait qu'elles ne ressemblent à aucune autre, c'est que précisément l'impartialité des résultats proclamés, dont les juges, les arbitres et les chronométreurs, dans l'ordre respectif de leurs responsabilités, sont les implacables garants, y est fondée sur une injustice organisée, fondamentale, élémentaire, qui, dès le départ, instaure parmi les participants d'une course ou d'un concours une discrimination qui sera le plus souvent décisive. Cette discrimination institutionnelle est l'expression d'une politique consciente et rigoureuse. Si l'impression dominante que l'on retire du spectacle d'une course est celle d'une totale injustice, c'est que les officiels ne sont pas opposés à l'injustice. Au contraire. Ils pensent qu'elle est le ferment le plus efficace de la lutte et qu'un athlète ulcéré, révolté par l'arbitraire des décisions, par l'iniquité des arbitrages, par les abus de pouvoir, les empiétements, le favoritisme presque exagéré dont font preuve à tout instant les juges, sera 100 fois plus combatif qu'un athlète persuadé qu'il a mérité sa défaite. Il faut que même le meilleur ne soit pas sûr de gagner. Il faut que même le plus faible ne soit pas sûr de perdre. Il faut que tous deux risquent autant, attendent avec le même espoir insensé la victoire, avec la même terreur indicible la défaite.
Ils sont 8 dans la course au départ. 3 blancs, 5 noirs, 3 blancs, 5 noirs, sacré damier. Ils arrachent leurs bras, ils projettent leur tête au bout de ce couloir étroit, dans les cris de la foule en fête. Cours, 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 cours. Regarde devant toi, va plus vite que les chiens noirs, que dressent les policiers blancs, à courir sus à tes enfants. N'y pense pas, n'y pense pas, ne te désunis pas. Allonge la foulée, elle est si proche l'arrivée, elle est facile cette course, et tu es le plus grand de tous. Cours, 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 cours. Ils sont 3 sur la ligne d'arrivée. 1 blanc, 2 noirs, 1 blanc, 2 noirs, sacré damier. Ils rejettent leurs bras, ils relèvent la tête, le cœur bat et le cœur bat.
Je remercie Zoé, Sarah et Maë pour leur lecture. N'oubliez pas d'étirer vos oreilles pour éviter les courbatures. Il est 9h29 et vous allez à présent découvrir une fiction radiophonique inédite créée dans le cadre de l'école Anthropocène organisée par l'ENS de Lyon. Elle s'intitule « Les 12 travaux de l'Anthropocène », coécrite par Jean-Baptiste Varito et Colline Lafontaine. À vous.
Transistor, raconte-nous une histoire.
Mercredi 11 avril, 7h-18h, c'est la journée de la radio de Transistor, en direct et en public du Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon.